Bonjour à tous, bienvenue pour cette première session, enfin cette première keynote de notre colloque sur les musiques hip-hop. Donc je vais faire un peu l'introduction de notre premier keynote speaker. Donc nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir pour cette première session Murray Forman, qui est professeur en médias et screen studies à la Northeastern University à Boston. Donc alors, c'est une figure majeure des hip-hop studies aux États-Unis. Il est l'auteur de au moins deux livres majeurs sur les études sur le hip-hop aux États-Unis. Donc un premier qui s'appelle The Hood Comes First, Race, Space and Place in Rap and Hip-Hop, qui est paru en 2002 et qui analyse l'histoire du rap américain, notamment l'évolution de son ancrage géographique. Il est aussi l'auteur donc d'un autre livre qui s'appelle That's the Joint, The Hip-Hop Studies Reader, en collaboration avec Marc-Anthony Neal, qui réunit de nombreux grands textes des Hip-Hop Studies. Et en 2014-2015, il a été bénéficiaire du Nasir Jones Hip-Hop Fellowship, qui est une bourse de recherche à l'université d'Harvard, dédiée à la recherche sur le hip-hop, et qui a été établie en collaboration avec le rappeur new-yorkais Nas. Donc nous sommes assez fiers d'accueillir Murray Forman pour cette conférence introductive où il va nous présenter une sorte d'état des lieux du champ des hip-hop studies tel qu'il s'est constitué dans le monde anglophone et notamment aux États-Unis, des enjeux que cela pose et notamment dans un pays où la constitution de ce champ est bien plus avancée qu'en France. Et on va le voir, donc même s'il y a certains éléments qui sont propres au contexte états-unien, il y a aussi un certain nombre d'éléments qui rappellent des choses par rapport à la situation française. Et donc j'assurerai la traduction de son intervention en français au fur et à mesure.
Once again, peace and good morning to you. It's a pleasure to be here. It's an honor. It's a privilege. I'm very grateful. I want to thank the whole team of the conference for putting this together. Thank you especially Savran and Alice for helping me with questions and answering things I was asking. And also to the sponsors, the venue. All of these things come together to make this happen. This is a hip-hop event, and we want to give thanks and show respect all around.
Murray remercie, bien entendu, tous les participants, toute l'organisation du colloque, d'avoir rendu ça possible, que c'est un événement hip-hop et que c'est important.
Also, just quickly before I get started, peace and respect to the artists in the room. We're talking about hip-hop studies, but it's their creativity that we're studying. And I want to give a shout-out to Brother Kondo. Before I came, I played some of his tracks in my class to tell him that I was coming over here, so I knew you were going to be part of the show.
Voilà, donc il remercie tous les artistes qui sont ici parce que c'est une conférence de hip-hop studies, mais c'est aussi une... D'abord, le hip-hop sont d'abord une production d'artistes et il remercie particulièrement Kondo, dont il a passé des morceaux dans ses cours.
And, last thanks before we get started here. I also want to show respect to any members of the Universal Zulu Nation who are in the room. Peace to the kings, to the queens, to the Malekas and the Akis. It's been a rough year for Zulu, as most of us know. But if there's something that's built to last, that might be it, or I hope so. We just keep it going, peace, love, unity, and having fun. That's something we can all live by, I hope.
Et voilà, il veut aussi remercier s'il y a des membres de la Zulu Nation dans la salle, notamment parce que ça a été une année un peu difficile pour la Zulu Nation, mais que voilà, il pense que c'est important de garder l'esprit originel de la Zulu Nation, c'est-à-dire peace, love, unity, and having fun, donc paix, amour, unité, et... voilà, s'amuser.
So as I get going, this is going to be a somewhat subjective maybe an overview of my experiences in hip-hop studies from a U.S. North American perspective. I want to maybe just sort of lay out some of the plot of what we did, some of the encounters that we had, and as I meet with you folks and I see the books in the back, I know that this is live here. So this is the beginning, hopefully, of many collaboration.
Donc il veut dresser un portrait un peu subjectif donc des hip-hop studies, de ce qui s'est fait aux États-Unis et voilà, quand il voit les livres qu'il y a au fond de la salle, il se dit que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se construire aussi ici.
All right, let's get this. I want to begin by stating that despite the way it's often discussed among artists, audiences, or hip-hop scholars, hip-hop may not mean the same thing to everyone. Not everyone conceives of hip-hop in exactly the same way, and this logically influences our scholarly approaches to hip-hop. As hip-hop continues to expand globally and to evolve generationally, the idea that hip-hop is a finished or complete project is premature. Hip-hop is inarguably a living culture, and as such, it continues to go through transformative phases. It's still very much a series of practices, values, attitudes that are under development or in progress. And I think it bears mentioning that at this stage, over 20 years since the first serious scholarly text on hip-hop emerged, the study of hip-hop studies in a meta level is also important as we critically engage the theories and research that grows out of the nexus of hip-hop and academia. As I've been saying for a long time, hip-hop studies is hip-hop too.
Alors, pour traduire ce que dit Murray, donc il dit qu'il aimerait commencer en expliquant que même si le hip-hop est un sujet de discussion depuis longtemps parmi les auditeurs, artistes, universitaires, celui-ci n'a pas le même sens pour tout le monde. Tout le monde ne conçoit pas le hip-hop exactement de la même manière, et cela influence logiquement l'approche qu'on en a en tant qu'universitaire. Étant donné que le hip-hop continue à se diffuser à l'échelle mondiale et à évoluer au fil des générations, il est un peu prématuré de dire que le hip-hop est un objet fini et complet. Le hip-hop est incontestablement une culture vivante et en tant que tel, il continue à subir des transformations. Et il pense que donc, c'est important d'en parler maintenant, sachant que ça fait déjà 20 ans qu'il y a eu que sont parues les premières publications sérieuses sur le hip-hop et qu'il devient donc non plus juste important de faire des hip-hop studies, mais des études des hip-hop studies au fur et à mesure que voilà, les théories et les recherches des hip-hop studies dépassent finalement le noyau du hip-hop et du monde universitaire. Et il conclut en disant que, comme il le dit depuis longtemps, les hip-hop studies sont partie intégrante du hip-hop.
Thank you for the work and doing the translation, by the way, Severin. This is great. So, get this. Along with traditional four elements that everyone here is familiar with, knowledge has long been asserted as a crucial factor in the hip-hop culture. Education and analysis have been valued within the culture since hip-hop's inception, as the Universal Zulu Nation has emphasized throughout its 44-year existence. And in this regard, I want to acknowledge the recent passing of Zulu Queen Sapphire, who was the Zulu Nation's librarian and one of the more important figures in the development of the Zulu knowledge tracts, including the compilations of the Infinity Lessons.
Alors, donc je traduis aussi, on a souvent dit que le hip-hop comportait quatre éléments, donc je donne un peu des données de contexte aussi pour le rap, la danse, le graffiti, le DJing, mais la connaissance a souvent été mise en avant comme un aspect important de la culture hip-hop. L'éducation et l'analyse ont été valorisées au sein de la culture hip-hop depuis ses débuts, notamment au sein de la Zulu Nation, qui a fêté récemment ses 44 ans d'existence. Et alors, pareil, en termes d'éléments de contexte, la connaissance est souvent considérée comme le cinquième élément de la culture hip-hop par la Zulu Nation. Et donc, Murray dit qu'à cet égard, il aimerait rendre hommage à la Zulu Queen Sapphire, qui est décédée récemment et qui était la libraire de la Zulu Nation, et l'une des figures importantes du système de connaissances Zulu et qui a participé notamment à la rédaction des Infinity Lessons, qui sont, pareil, j'explique, la liste des principes philosophiques auxquels croit la Zulu Nation et qui est inspirée de plusieurs doctrines philosophiques et religieuses.
The hip-hop studies does not constitute a single homogeneous discipline or field. Like hip-hop itself, it didn't spring into existence fully formed. And what it is, how it's defined academically, is still not always agreed upon by everyone working within it. Indeed, hip-hop might only be a minor factor in one's scholarship, or a means through which to analyze various overlapping social issues. Hip-hop study ultimately draws on multiple critical approaches to culture, especially those that attempt to provide a politically informed and progressive, radical challenge to existing authority regimes and power structures. Somebody say, fuck Trump, please. And as new avenues of theoretical and cultural analysis arise, they gradually emerge in hip-hop studies as well. As we can see, for example, in the work of Andreana Clay, who explores hip-hop and politics among queer Black and Latino youths, or Lester K. Spence, whose critique of contemporary hip-hop exposes the neoliberal and often conservative leanings among some artists and industry moguls. This is not simply celebratory work that trumpets how great hip-hop is or that grabs onto hip-hop's resistant potentials, but research that holds hip-hop's creators and its audiences and its scholars accountable for their political articulations and public actions.
Alors également, les hip-hop studies ne forment pas une discipline ou un champ homogène. Comme le hip-hop lui-même, c'est un champ qui n'a pas émergé d'un seul coup et sa définition et ses limites ne font pas forcément l'objet d'un consensus pour les différentes personnes qui s'en revendiquent. Et en effet, le hip-hop peut parfois seulement être un élément périphérique dans une carrière ou un moyen utilisé pour analyser d'autres enjeux sociaux. Les hip-hop studies s'inspirent des différentes manières d'étudier la culture à l'université et notamment de celles qui tendent à fournir une vision progressiste et politique et qui militent pour une remise en cause de l'autorité et des rapports de pouvoir en place. Je traduis pas somebody say fuck Trump please, mais je crois qu'on a compris le sens du coup. Lorsque des nouvelles théories et nouveaux modèles d'analyse de la culture émergent, ils émergent aussi peu à peu dans le champ des hip-hop studies. C'est le cas par exemple avec le travail de Andrena Clay qui analyse les relations entre hip-hop et politique chez les groupes de jeunes queer, noirs et hispaniques, ou avec celui de Lester K. Spence dont la critique du hip-hop contemporain met en évidence les penchants conservateurs et néolibéraux chez les artistes et les manias de l'industrie musicale. Et Murray précise que ces travaux ne font pas que célébrer le hip-hop ou se concentrer sur son potentiel de résistance, mais que ce sont des recherches qui considèrent les créateurs du hip-hop et son public comme des responsables de leurs actions politiques et publiques.
As amply clear by the diverse academic backgrounds of all of us in this room, hip-hop is arrayed across the university system. No single discipline, department, or program can lay claim to it. But it does matter where hip-hop courses and scholars are situated within academia, especially as some departments or programs are more highly valued or better resourced than others within the institutional system. For example, in the US and perhaps elsewhere, the emphasis on STEM programs, which is science, technology, engineering, and math, often coincides with decreased emphasis on funding for humanities and liberal arts programs, where hip-hop studies is most often located. Hip-hop pedagogical approaches are evident in some STEM curricula, and here Christopher Emden is probably at the forefront in terms of hip-hop and STEM education. But this still remains a minor intervention. There are also various other sectors, including research and historical archives, the publishing industry, academic conferences, and TV news networks where hip-hop scholars frequently freelance as media pundits, that while not necessarily housed within the university, also represent important sites within which hip-hop studies is advanced.
Comme le montre la diversité des profils disciplinaires de chacun d'entre nous dans cette salle, le hip-hop n'a pas été saisi par une seule discipline dans le monde universitaire. Il ne peut donc pas être revendiqué par une seule discipline, département ou programme. Mais c'est important de savoir où sont situés les cours et les universitaires qui étudient le hip-hop dans le monde académique, car certains départements et disciplines sont souvent mieux considérés que d'autres. Par exemple, aux États-Unis, c'est d'ailleurs aussi le cas en France, on constate une valorisation de plus en plus importante des disciplines scientifiques et technologiques au détriment des sciences humaines et sociales, où les études sur le hip-hop sont généralement situées. Alors, Murray précise néanmoins que des approches liées au hip-hop se retrouvent chez certains chercheurs des sciences dures, donc il cite quelqu'un par exemple comme Christopher Emden, mais elles y sont périphériques. Néanmoins, les hip-hop studies ne sont pas limitées à l'université. Bien qu'elle, il y a de nombreux autres secteurs, comme ceux des archives, de l'édition, les colloques universitaires dans les plateaux télévisés, où d'ailleurs on trouve souvent des chercheurs en tant que freelance ou comme experts, qui sont aussi des espaces importants pour la construction et l'évolution des hip-hop studies.
Now, there are several clear opportunities or benefits to conducting hip-hop research in academia, some of which I might itemize on this screen, and there are surely more. I think the main factor that I've seen is that the institution and its general infrastructure provides a scaffolding for teaching and research, whether through funding, administrative support, collegial collaborations, and the potentials of working among young folks, hip-hop heads or not, with their vitality, intellect, and seemingly boundless curiosity. It may sometimes take some arguing to secure administrative support, but it's important to convince academic supervisors that taking up rigorous hip-hop studies, and here I emphasize the rigor of it, can benefit the students, especially if it connects them with the wider community outside the campus boundary.
Alors, il y a différentes possibilités et intérêts de mener des recherches sur le hip-hop dans le monde universitaire. Donc, on a détaillé quelques-unes sur ces diapositives, mais il y en a sûrement plus. L'élément principal, selon lui, est que l'institution et son infrastructure fournit une structure pour l'enseignement et la recherche, que ce soit par le biais de financement, de soutien administratif, de travail collectif, ou même en offrant la possibilité de travailler avec des jeunes étudiants, fans de hip-hop ou pas, et dont, qui sont souvent porteurs d'une grande vitalité, d'une intelligence et d'une curiosité sans bornes. Et obtenir un soutien administratif à l'université nécessite parfois de se démener, mais Murray explique que c'est important de convaincre les responsables des universités que des hip-hop studies rigoureuses, et il insiste vraiment sur ce point que ça doit être rigoureux, peuvent apporter quelque chose aux étudiants, notamment parce qu'ils les connectent au vaste monde situé hors des frontières de l'université.
Two quick examples of how the university facilitated this in my classes. Having the context and space to teach a course on hip-hop and the media, I was able to Skype in several hip-hop scholars, including Eric Nielsen, whose experience as an expert witness in many criminal and murder cases involving rappers has been unrelenting. The students in class were riveted by his discussion, and several voiced their interest in joining the initiative. I also provided funding for an honorarium to invite Boston Underground hip-hop veteran Ed OG to the classroom to discuss his creative process and to explain the local emergence of hip-hop. And after class, I had access to a comfortable conference room where I hosted the monthly meeting of the Boston chapter of the Universal Zulu Nation, as well as providing photocopy and printing services for the chapter. I present these brief examples as a way to get us thinking in an expansive sense about what it means to do hip-hop studies, drawing attention to the fuller institutional conditions that come to bear in our scholarly labor.
Alors, Murray donne deux exemples des facilités qu'a apporté l'université pour faire des hip-hop studies. Donc, par exemple, en ayant obtenu l'autorisation d'assurer un cours sur les médias et le hip-hop, il a eu l'occasion de faire un Skype avec, avec un chercheur en hip-hop, Eric Nielsen, qui est un expert régulièrement convoqué dans le cadre d'enquêtes policières et criminelles impliquant des artistes de hip-hop. Et les étudiants ont été fascinés par cette discussion et plusieurs d'entre eux ont exprimé après coup leur volonté de suivre cette voie. Et il explique également qu'il a obtenu un financement qui lui a permis d'inviter dans son cours un vétéran du hip-hop à Boston, donc Ed OG, pour qu'il vienne leur parler de son processus de création et raconter les débuts du hip-hop dans la ville. Et qu'après ses heures de cours, il a eu accès à une salle de conférence confortable où il a hébergé la réunion annuelle du chapitre local de la Zulu Nation, tout en mettant du coup à leur disposition les services d'impression et de photocopie de l'université. Et il donne ces exemples pour expliquer comment faire des hip-hop studies peut signifier plein de choses différentes et montrer finalement tous les facteurs institutionnels qui entrent en jeu dans l'accomplissement de ce travail.
And this screen is like a break, gives you something visual. as I'm sure you'd agree that the enhanced classroom technologies and explosion of online resources have been an incredible boon to researching and teaching hip-hop. As more and more materials are made available online, including film documentaries, oral histories, and scholarly essays, along with other hip-hop-oriented materials, some of which are shown here, instructors have at their disposal a vast array of information that can help elucidate points while students can access these same materials for their own course papers. In fact, when I first started seriously studying hip-hop in the late 1980s, the problem was that there were virtually no scholarly resources to work from. And further away from New York or other major hip-hop cities one was, the more difficult it was to get access to the pioneers and veterans who could fill in some of the blanks about hip-hop's formation. This has obviously changed over the ensuing years, and now the opposite is true. That condition, that initial condition of sparseness is now one of plenitude, even overabundance, which makes it difficult to sort through all the studies and research materials and to evaluate their rigor and quality. But I can state quite clearly, if I have to choose one, I'll take abundance over absence any day.
Alors, Murray explique que voilà, l'explosion des ressources en ligne et l'arrivée des nouvelles technologies dans les salles de classe a été une aubaine pour la recherche et l'enseignement du hip-hop. De plus en plus de matériaux sont disponibles en ligne, qu'il s'agisse de films, de documentaires, d'histoires orales, de publications universitaires ou d'autres contenus sur le hip-hop, et il en liste quelques-uns sur la diapositive. Les enseignants ont donc à leur disposition une vaste gamme de documents qui peuvent aider à résoudre certaines questions, et les étudiants peuvent accéder à ces mêmes ressources pour leurs recherches. Et en fait, quand il a commencé à étudier sérieusement le hip-hop dans les années 80, le problème était plutôt inverse. Il n'y avait en fait aucune ressource universitaire de disponible. Et plus on était loin des gros centres du hip-hop, que ce soit New York ou un autre foyer, plus il était difficile d'accéder aux pionniers et aux experts qui pouvaient aider à combler des zones d'ombre de l'histoire du hip-hop. Ceci a considérablement changé depuis, et maintenant c'est plutôt l'opposé qui est vrai. L'insuffisance des débuts a plutôt été remplacée même par un trop-plein, ce qui fait qu'il est difficile de faire le tri entre les études et les recherches et d'évaluer notamment leur rigueur et leur qualité. Mais il affirme clairement, s'il devait choisir entre les deux, il préfère largement l'abondance à l'absence de ressources.
So again, I've only itemized a few of the factors that may constitute barriers to hip-hop studies in the university. There are more. For one, tensions can emerge in the top-down dismissal by conservative faculty and administrators who question hip-hop's relevance or appropriateness in the academy. This is to acknowledge the potential risks of embarking on hip-hop as an object of analysis for students or for untenured faculty. Also, for students, there may be difficulty in finding supportive and knowledgeable advisors under whom to carry out research in and on hip-hop culture. Right, Severin?
Ouais. ouais. Alors, donc, il explique cependant qu'il y a quelques barrières qui peuvent s'ériger contre l'existence des hip-hop studies dans l'université. Tout d'abord, il y a des tensions qui peuvent provenir des universités conservatrices et des responsables qui doutent de la pertinence du hip-hop au sein du monde académique. C'est la raison pour laquelle entamer une étude sur le hip-hop pour un étudiant ou pour un chercheur non titulaire n'est pas sans risque. De même, pour les étudiants, ça peut être difficile de trouver des encadrants qui aient tendance à être à la fois motivés et, par une recherche sur la culture hip-hop et au fait de cette culture.
So I submit that this is changing as more hip-hop heads get their doctorates and are hired as faculty. But even well-intentioned professors or members of doctoral defense communities may pose serious challenges due to their indifference or unfamiliarity with the topic area. Students and faculty and advisors and parents who subscribe to the vocational aspects of university education and seek direct career placements may also undervalue hip-hop studies, asking, but how will this get you a job? As if that's all we go to school for. And further, attempts to maintain political critique in and through hip-hop studies may meet opposition by faculty who fail or refuse to recognize hip-hop as anything other than art and performance. Finally, the lingering suspicion and critique among non-university members of hip-hop scenes cannot be ignored. Despite sometimes displaying distinct anti-intellectual attitudes, the suspicions can be understood as an elaboration of long-standing town and gown discrepancies that emerge in the differences between the university's ivory tower and the hood. But it's also often legitimately a mistrust based on a history of cultural appropriation and thievery, with hip-hop scholars constituting culture vultures. This is a serious and relevant charge, and for scholars of any discipline, the question should be asked, who's studying whom and to what end? Who stands to benefit and how?
Alors, pour poursuivre sur le dernier point, le fait qu'il y a c'est difficile de trouver des encadrants qui soient à la fois motivés par une recherche sur le hip-hop et au fait de cette culture, il a tendance à penser néanmoins que ça change au cours du temps, au fur et à mesure que des gens qui sont fans de hip-hop obtiennent des doctorats ou sont embauchés à l'université. Cependant, même des professeurs ou des membres du jury de thèse qui peuvent être bien intentionnés peuvent poser, ils considèrent de sérieux problèmes à cause de leur indifférence ou de leur absence de familiarité avec le sujet. Mais des critiques envers les hip-hop studies peuvent aussi provenir d'étudiants ou de parents ou de départements universitaires qui envisagent l'université uniquement comme un moyen d'obtenir un débouché professionnel. Donc, certains d'entre eux ont en effet tendance à poser la question, quand on fait des hip-hop studies, mais comment tout ceci va te donner un travail ? Comme si c'était la seule raison pour laquelle on allait à l'université. En outre, les tentatives de certains universitaires de reconduire une certaine critique politique à l'intérieur et à travers les hip-hop studies donnent parfois lieu à des critiques de certains départements ou de certaines universités qui n'arrivent pas à envisager le hip-hop comme autre chose que comme un art ou une performance. Enfin, la méfiance envers les hip-hop studies peut parfois se retrouver chez les acteurs des scènes hip-hop qui ne sont pas des universitaires. Donc, en effet, s'il existe des comportements anti-intellectuels distincts, cette méfiance doit être analysée comme la conséquence de divergences existant de longue date entre ce qu'on pourrait appeler la tour d'ivoire du monde universitaire et le monde des quartiers. C'est aussi le résultat d'une longue histoire d'appropriation culturelle qui a conduit les universitaires à être perçus comme, on pourrait traduire en français, des voleurs de culture. C'est donc une accusation sérieuse qui est émise par les acteurs de la culture hip-hop. Et en fait, dans n'importe quelle discipline, la question devrait être posée. Qui étudie qui et dans quel but? Et à qui cela profite et comment?
Now, following from that last point, university and colleges and the professors who work there often have their own reasons for offering hip-hop studies courses. When it's not regarded negatively, hip-hop can often be seen as a hip, cool, and as being hip, cool, and trendy. And there are many examples of administrators offering support and encouragement to hip-hop scholars, not necessarily because they see the value in the research, but because they recognize the financial benefits that can accrue from offering such courses. Butts in the seats is not an inconsequential concern for budget-minded administrators, and the economic bottom line can emerge as a determining factor of whether hip-hop courses get offered or hip-hop scholars are hired.
Alors, pour poursuivre dans la même veine, les universités et les professeurs qui y travaillent ont souvent leurs propres raisons d'offrir des cours sur le hip-hop. Quand le hip-hop n'est pas considéré négativement, le hip-hop est souvent vu comme un peu cool tendance. Et il y a donc plein d'universités qui soutiennent et encouragent des recherches sur le hip-hop, non pas nécessairement parce qu'elles reconnaissent la valeur de telles recherches, mais parce qu'elles considèrent qu'une offre de cours sur le hip-hop peut permettre à l'université d'acquérir des bénéfices financiers. Et là, il parle notamment dans un contexte états-unien où le financement de l'université se fait notamment par les frais d'inscription. Et du coup, cet opportunisme n'est pas une préoccupation sans conséquence pour les départements universitaires soucieux de leur budget. L'argument économique peut être un facteur déterminant dans la décision d'offrir un cours sur le hip-hop ou d'embaucher un chercheur en hip-hop.
So, quick example, I'm going to just freestyle a little bit, is that I think black studies is often being exploited as well. In my university, and the course that I'm offering on hip-hop and the media, It got really supported and encouraged by the administrators, not because it's about hip-hop, not because they really saw a need or interest in having that, but it fulfilled a certain check on a list of diversity and difference courses. And so it got full encouragement and support very quickly just because of their need to have this requirement for the students. So it had nothing to do with hip-hop and absolutely nothing to do with black studies or black culture.
Alors, juste un exemple rapide, en fait, son cours de Hip Hop and Media qui a été qu'il a mis en place à l'université de Boston a été très encouragé de la part de son université, mais non pas parce que c'était c'était pour l'encouragement du hip hop, mais parce qu'en fait, ça permettait de remplir un critère particulier sur la liste des critères que les étudiants sont censés avoir à la fin de leur diplôme, qui est le critère difference and diversity. Donc en gros, ça a été encouragé pas pour encourager le hip-hop, mais parce que ça permettait de montrer que c'était rangé dans la case des cours qui mettaient en valeur la diversité en termes, je pense qu'il parle en termes racial et ethnique, dans l'université.
Okay, so we might ask, with its apparent appeal and benefits to university, does hip-hop studies potentially conflict with more politically engaged and radically informed black studies departments or courses? And this is something that's raised by one of my colleagues, P. Khalil Saucier and Tryon Woods, and also by my homie and fellow Nas fellow, Damon Sajnani, Professor D. That the administrations of most universities are often uninterested, dismissive, or outright afraid of the political potency of activist scholarship and political radicalism. In the US, this is only more true when the thorny issues of race are added to the mix. Hip-hop is, in many instances, taught in ways that are more palatable to university administrators, especially with an emphasis on performance or textual form and content. And it's encouraged in ways that more politically informed and radically engaged black studies courses are not.
Alors dans la continuité du point précédent, il se demande si, en raison de son attrait et des bénéfices apparents pour les universités, les hip-hop studies ne risquent pas potentiellement d'entrer en conflit avec des départements de black studies qui sont souvent plus radicaux et engagés politiquement. Et en effet, les administrations de la plupart des universités sont souvent désintéressées, voire dédaigneuses, voire même effrayées par le potentiel politique du militantisme académique et du radicalisme politique. Et aux États-Unis, cela est d'autant plus vrai lorsque l'épineuse question de la race est présente. Et le hip-hop, dans bien des cas, est enseigné d'une manière comme quelque chose qui est plus acceptable pour les administrateurs des universités, notamment parce qu'on met l'accent sur les questions de performance ou sur la forme ou sur le contenu textuel. Et les cours sur le hip-hop sont donc plus souvent encouragés que les Black Studies, qui comportent une dimension plus politique et un engagement plus radical.
Speaking to all of you here, to a group that's actively producing knowledge within and about hip-hop culture, we need to acknowledge our role in establishing canons, those writings that are somehow elevated as being the most important, even essential, to the field. In the U.S., there are many key hip-hop texts and associated authors that stand within an emerging list of go-to must-read books and articles. For example, Trisha Rose's 1994 publication, Black Noise. I'm quite sure that this is true also here in France. These get reproduced in numerous course syllabi or in essay and book citations. This is not like unlike any other area of study, and it's not necessarily a negative factor, but it does have stakes. It matters a great deal what kinds of research and what authors and what kinds of arguments are deemed to be legitimate and perhaps essential.
Alors, donc, il précise qu'il nous parle à nous, c'est-à-dire un groupe de personnes qui produit une connaissance au sein de la culture hip-hop. Et donc, vu qu'il nous parle à nous, c'est important de reconnaître notre rôle dans l'établissement des canons de cette culture. En effet, ceux qui écrivent sont souvent érigés en experts du champ. Aux États-Unis, il y a notamment certaines références à lire. C'est par exemple le cas du livre de Trisha Rose, Black Noise, qui est paru en 1994. Ces publications sont incluses dans les programmes de nombreux cours et citées dans de nombreuses autres publications. Alors, cette situation, elle n'est pas propre aux hip-hop studies, et ce n'est pas forcément négatif qu'il y ait des références, mais cela a des implications. Et c'est donc important de prendre conscience des recherches, des auteurs et des arguments qui sont jugés légitimes dans un champ donné.
Just quickly, because I see that time is slipping by here, that I want to say that the publishing industry is actively seeking to capitalize on the interest in hip-hop studies as well, that this is a growth industry and they're seeking to profit from it. So without any necessary interest or commitment or cultural investment in hip-hop, they really do want to have readers and books and the like on hip-hop to have a product to put in the market. You know, one of the things we can keep in mind is that we may not know for sure if or how any given book rocks knowledge and makes a difference in how people understand hip hop in the world. But saying, "Yo, we sold X amount of units," does have a certain meaning. And by the way, I can tell you that even though we sell books and the like, we're part of the industry. I don't want to say that we're not. If anybody thinks you're going to get rich publishing hip hop studies books, you need a new game plan. It's not going to happen.
Alors, je traduis en disant que l'industrie de l'édition aussi tend à capitaliser activement sur les hip-hop studies, non pas parce qu'elles ont un intérêt spécifique envers les hip-hop studies, mais avant tout pour vendre un produit et engranger des revenus. Cette industrie de l'édition est notamment intéressée par la publication de nombreux readers ou compilations regroupant des grands textes des hip-hop studies qui pourraient vendre. C'est assez compliqué de savoir dans quelle mesure ces livres marchent et contribuent à changer la connaissance au sein des hip-hop studies. Par contre, c'est facile pour des maisons d'édition de dire « Eh, regardez, on en a vendu tant ». Mais en même temps, Murray souligne que il a beau avoir écrit des livres sur les hip-hop studies, c'est assez compliqué de gagner des sous avec ces livres, et que si vous faites des livres sur le hip-hop pour gagner des sous, alors vous avez probablement besoin de changer de carrière.
I want to, also acknowledge my complicity in this act. That these are the books that Mark Anthony Neal and I co-edited. And just quickly to tell you a little bit about the process, how we went about assembling these two editions of The Reader, is that in the first instance, we looked online and looked at what syllabi were out there, what courses people were teaching. We canvassed some of our colleagues to find out what readings they assigned to their students. And we slipped in a couple of other readings that Mark and I thought might be beneficial and sit well alongside those. And so really what we'd say is we listened to the field and we took our cues from the field itself.
Alors, il veut montrer aussi qu'il a été un peu complice aussi dans cette idée de faire des readers sur les hip-hop studies. Et il a notamment donc publié That's the Joint en 2004, qui est un livre regroupant des grands textes des hip-hop studies. Et il explique donc comment il a fait avec son collègue Mark Anthony Neal, comment il a choisi les textes à l'intérieur et à l'intérieur de ce volume. Et qu'il a donc notamment parlé avec des collègues et utilisé Internet pour chercher les cours existants enfin, sur le hip-hop et sur les programmes et voir quel grand texte était donné dans ces différents cours pour arriver voilà les inclure dans le livre.
For the second edition, the publishing agency, the publishers, Routledge helped us with that process, giving us lists of which professors ordered the book the first time and had syllabi lists and that sort of thing. So it really did smooth the process a little bit. But again, they didn't have too much interest in the content. They didn't really care what kinds of articles we introduced. They weren't concerned with the quality or the implications of the arguments that we were putting into motion through these books. Like I said, they're really just looking for product to get out on the market. And that became painfully evident as we moved into the second edition.
Go ahead. Yeah. OK, alors il dit que pour la deuxième édition, ça a été facilité par le fait que l'éditeur leur a donné une liste de personnes qui avaient mis le livre en édition en lecture obligatoire pour leur cours. Et voilà, mais que néanmoins, l'éditeur n'était pas vraiment concerné par le fait, enfin les arguments qu'il mettait en avant envers les hip-hop studies. Et que ça a apparu d'autant plus durant la deuxième édition.
So, you know, take a look at the covers here, the first edition, the second edition. And then this is what Routledge was proposing for the cover of the second edition. No real innovation. They still had that's kind of separated into three columns. But what Mark and I were most appalled about is that they have on the cover Notorious B.I.G. and Jam Master Jay, two artists who were murdered before the first edition even came out. And so we were just, you know, kind of horrified by how tone deaf the publisher was, and we took it back to them, said we want to take control of this cover. It matters a great deal. And so I'm proud to say that my wife's advertising agency did this second cover featuring underground rapper MC Ole Small, who's very much still alive.
Alors donc il explique que un des exemples de désintérêt de la maison d'édition pour ce livre et le fait que voilà, la deuxième couverture qu'ils leur ont proposée, c'est une couverture qui reprend la trame, le cadre de la couverture précédente. Et surtout, il a été un peu outré par les photos qui donnent à voir Notorious B.I.G. et Jam Master Jay de Run DMC, qui tous les deux étaient assassinés avant même la sortie de la première édition. Et donc il était un peu outré par le fait que voilà, ils étaient totalement aveugles à l'évolution de la culture hip-hop. Et c'est la raison pour laquelle ils ont réussi à récupérer le contrôle en fait de cette couverture et demander donc à l'agence de la femme demeurée de faire la deuxième couverture dans laquelle on voit MC Ole Small, un autre rappeur qui est lui bien bel et bien en vie.
So I put this slide up here just as an important evolution, I think, in hip-hop and hip-hop studies, really. The rise of hip-hop archives and collections, a lot of the veterans and pioneers are being invited and are now donating their archives, their memorabilia, to places such as the Cornell Hip-Hop Collection, which I recommend you check out online. There's a lot of stuff that they've digitized, and it's available now.
Alors, il met cette diapo pour montrer voilà, qu'il y a aussi une nouvelle évolution dans les hip-hop studies, qui est l'apparition d'archives et de collections dédiées au hip-hop, donc généralement au sein des universités, et que voilà, et c'est fondamental pour les hip-hop studies, voilà, qu'elles mettent souvent l'accent sur l'histoire du hip-hop et qu'elles concentrent aussi des artefacts originaux et des photographies pour aider les chercheurs.
And so not only is this material available to us, the material that wasn't available, it was in people's basements and in storage lockers and that sort of thing, but it also constitutes possibly a new site where hip-hop researchers who are looking for future opportunities can actually find employment. So this is expanding the opportunities that might be there for people who are doing hip-hop studies.
Alors l'intérêt, c'est que c'est les matériaux qui sont collectés dans ces archives, c'est des matériaux qui étaient souvent dans... voilà, dans les greniers ou les caves des personnes et qui sont donc exposés, mais aussi c'est pas seulement donc des lieux importants pour la recherche et la collecte des universitaires, c'est aussi des lieux qui deviennent peu à peu des endroits où les chercheurs en hip-hop peuvent trouver des emplois rémunérés.
So we're winding down, I promise. In my opinion, the most robust and exciting trend in hip-hop studies today is the globalization of the field and the variety of critical and historical analysis out there across nations. This conference is a perfect example of that, as is Sujatha's amazing work, and we'll hear more about that tomorrow. Every place has its own origin tales about how hip-hop emerged in national or local contexts, with its own pioneers and veterans who broke new ground. And here, I might employ a term that Grandmaster Caz uses, pioneers of the audience, to identify those whose co-presence was essential to the success of the earliest jams and ciphers. The expansion of international hip-hop studies networks produces opportunities to build the knowledge element of the culture while adding important new dimensions to our understanding of what hip-hop is and what it can be.
Alors, selon lui, la tendance la plus robuste et la plus récente dans les hip-hop studies provient de la mondialisation et de la diversité des analyses historiques et critiques auxquelles cela donne lieu. Donc, il explique que cette conférence en est un exemple parfait, tout comme le travail remarquable de Sujatha Fernandez, qu'on écoutera demain dans la deuxième keynote session. Et c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus. Et il explique que chaque contexte local ou national a son propre récit des origines dans le hip-hop, ses pionniers, ses vétérans, et même, pour reprendre un terme utilisé par le rappeur Grandmaster Caz, son public pionnier, qui a été fondamental pour le succès des premiers concerts et des premières battles. Et la constitution de réseaux internationaux liés au hip-hop studies fournit aussi des occasions de construire l'élément de la connaissance au sein de la culture hip-hop, en ajoutant des dimensions importantes à la compréhension de ce que le hip-hop est et de ce qu'il pourrait être.
And the present political turn toward conservative and nationalist, and dare I say fascist, parties across the continents demands powerful responses. We can ask, how will the hip-hop constituency interpret and challenge the initiatives of these emerging regimes? How can hip-hop in all of its cultural forms amplify the protest of people who are most negatively impacted by the racism, sexism, Islamophobia, and 1% privilege that typically defines such administrations? As scholars of hip-hop studies, we too are writing and researching for peace, truth, and justice.
Alors sur ce plan, la montée en puissance des partis conservateurs et nationalistes, on pourrait même dire fascistes, dans différents continents, demande des réponses efficaces. Et on pourrait alors se demander comment cette structure qui est formée par le hip-hop peut interpréter et remettre en cause les initiatives de ces régimes. Comment le hip-hop peut porter et amplifier les revendications de personnes, des personnes qui sont les plus touchées par le racisme, l'islamophobie, le sexisme, ou même par les privilèges des 1% de gens qui sont au pouvoir. Et en tant que chercheur inscrit dans les hip-hop studies, nous écrivons et effectuons des recherches aussi en faveur de la paix, de la vérité et de la justice.
So in conclusion, I want to emphasize the importance of the work we do in hip-hop studies while remaining mindful of our own individual objectives. We embark on scholarly studies of hip-hop for many reasons that are not always necessarily tied to the love and respect for the culture. We embark on hip-hop studies to complete course requirements, to get university degrees, to get tenure and promotions, to advance our careers. But we do all of these using the creative work of other people, often black and brown folks of systemically marginalized communities.
Alors, en conclusion, il veut insister sur l'importance du travail que l'on fournit dans les hip-hop studies au regard de nos propres objectifs individuels. On peut en effet entamer des recherches sur le hip-hop pour des raisons qui ne sont pas toujours liées à l'amour de la culture hip-hop. On peut entamer des recherches sur le hip-hop pour valider un cours, pour obtenir un diplôme universitaire, pour obtenir une titularisation ou une promotion à l'université, pour avancer dans sa carrière. Mais on fait toutes ces choses en utilisant le travail créatif d'autres personnes qui sont souvent des Noirs ou des Hispaniques issus de milieux défavorisés.
So as I've already noted, there's a responsibility to hip-hop scholarship. I believe we have a necessary obligation to advance social justice and equity issues, especially pertaining to oppression and persecution of black, Latino, and poor citizens. In a manner that's consistent with some of the best hip-hop cultural expression, for example, that of Public Enemy, Dead Prez, Rebel Diaz, Immortal Technique, Paris, La Rumeur, and many others. And we're obligated to try to build hip-hop, to try and reinforce the culture itself, ensuring, as Grandmaster Caz has told me, that future generations understand where hip-hop came from and how it got to this place today.
Alors, comme il l'a expliqué, il y a une responsabilité qui va avec la recherche sur le hip-hop. Il croit que nous avons l'obligation de faire tendre le monde vers plus de justice sociale ou d'égalité, notamment de lutter contre l'oppression des Noirs et des Hispaniques ou des plus précaires, en le faisant d'une manière qui soit cohérente avec ce que l'on a de mieux dans la culture hip-hop, c'est-à-dire des gens comme Public Enemy, comme Dead Prez, comme Rebel Diaz, comme Immortal Technique, comme Paris, comme en France La Rumeur et bien d'autres. Et il dit que nous avons l'obligation de construire le hip-hop, de renforcer la culture elle-même en s'assurant, comme Grandmaster Caz lui a dit un jour, que les générations futures comprennent d'où est venu le hip-hop et comment il en est arrivé là.
And that's all I got, so I want to say thank you. Thank you, Savran. Peace.
Alors, donc, merci beaucoup, Murray. Donc, on est un peu en retard sur le programme. On va peut-être le temps de prendre une ou deux questions, s'il y a une ou deux questions dans la salle.
Ouais.
Oui.
J'apporte un micro. Hein.
Hi, thanks for your talk. And do you think the last President Obama had an impact on the hip hop culture? And do you think of people?
Could you say it again? Because I'm old and I can't hear so well anymore.
Okay, so I said, do you think the last President Obama had an impact on hip hop culture? And do you study how this kind of people? Impact on hip-hop, culture, business, everything. I mean, political people.
Yeah, thank you, brother. You know, there's a book out, I mentioned him in the paper in another context, Eric Nielsen and another guy named Travis Gosa have edited a book called Obama and Hip-Hop Reader. So people have been looking at this. In answer to your question, do I think that Obama influenced hip-hop? Not in any direct way, but the sheer presence of a black president did have a powerful symbolic, at the very least symbolic impact. Even before he was president, when he was running for the office, people were doing songs, right? Jeezy and Nas and other people, right? So they were watching and they were engaging in politics in ways that maybe they hadn't before. Right, some of them were motivated to join campaigns to get young voters out and that sort of thing. So I would say that is a kind of an influence. But he had to keep a studied distance, right? Like he every time he would maybe show support, like that he listens to Jay-Z or Ludacris or something, conservatives and Republicans would pounce on him, suggesting that, yes, this black guy listens to gangster rap, these gangster rappers rap about killing police, therefore the president somehow supports killing police, right? So he had to really be careful how he showed his appreciation. But one thing I've written about that I'll mention is that he, in 1989, his first date with his wife was to go see Spike Lee's Do the Right Thing with the soundtrack Fight the Power, right, by Public Enemy. So that was their first date. I think that's kind of important. And when hip-hop was jumping off, early 80s, he was like 18 years old. He admits he smoked pot. He admits he did coke. He was at those parties. He was dancing to that music, feeling that vibe. He was part of it as a young black man. Then the other thing, he was a community organizer in Chicago. And that's absolutely important, that activist aspect at an early age that he carried with him to the office. So, it's a long way to go to sort of say, did he influence hip-hop? Maybe what I've said is hip-hop influenced him in ways that we're still figuring out, but there's absolutely a dialogue that was crucial and that changed. I assure you, the current president of the United States is not checking hip-hop. No matter whether Kanye goes to a meeting with him or not.
Je ne sais pas si je traduis ou J'explique alors en résumé, c'est compliqué de dire que Obama a influencé directement le hip-hop, d'autant plus que Obama a dû faire attention pas mal de fois, justement, étant un président noir, à ce qu'il devait dire, notamment donc, par exemple durant les mouvements de Black Lives Matter. Mais le fait d'avoir donc un président noir à la Maison Blanche, ça a quand même eu peut-être une influence directement, enfin une influence en termes de personnes. Et sachant que Obama lui aussi a donc un parcours particulier, le premier rendez-vous qu'il a eu donc avec Michelle Obama, sa femme, ça a été pour aller voir le film Do the Right Thing de Spike Lee, dont le premier morceau de la bande son est Fight the Power de Public Enemy. Il y a eu aussi le fait que Obama a été un community organizer à Chicago. Et que donc voilà, ça a une importance aussi. Donc alors, est-ce que Obama a influencé le hip-hop ? Probablement, le hip-hop l'a influencé dans sa manière d'être. Et après, enfin voilà, il y a en tout cas des liens.
Hi, hello. So does this mean actually that hip-hop is still considered as dangerous? Because you talked a lot about institutionalization, I'm going to say it in French because it's so hard in English, and that doesn't that mean it's supposed to be sweeter, safer, pacifist somehow right now? Isn't that still perceived as something dangerous? Why is that?
I guess I'm not exactly sure how to respond in some ways, because I mean, the notion of danger is often relative to where one is situated, right? Hip-hop represents something dangerous sometimes to people who feel threatened by the culture that produces it, right? So there's always been this notion of it's dangerous that's been perceived differently, I think, among white people and black people, or, you know, people who live in the middle of a city where it's part of the everyday cultural soundtrack, and maybe people who live in a different region where it's maybe more marginal and therefore more shocking or not part of the everyday soundtrack. And I don't think, you know, this is why I think I'm talking about a particular kind of hip-hop studies as well, right? Is that, you know, I want it to be dangerous. I want this to be part of dangerous discourse. And by that I mean, when I talk about rigor, I'm also talking about political engagement. It's like, what kinds of hip-hop do we introduce? And, you know, we want to take account all of the different varieties, and you know, the party stuff and the political and the gangster and, you know, the progressive feminist tracks and that sort of thing, and international languages that the students in our classes may not understand, but it's good to hear the flow. But there's a lot of people who still consider that as dangerous, and so I say hip-hop has the potential to bring the danger every time. You just have to think about who's the audience and what their sense of danger might be, what their sense of threat or risk might be.
Alors la question était de savoir si le hip-hop est toujours dangereux alors qu'il s'institutionnalise aujourd'hui. Et donc la réponse demeurait en plusieurs temps. C'était d'abord que le terme donc, de dangereux, ça dépend de quel côté on se place en fait. Et que voilà, le hip-hop n'a peut-être jamais été dangereux pour des gens pour qui voilà, le hip-hop était leur bande-son quotidienne, la bande-son de ce qu'ils vivaient. Ça a peut-être été plus dangereux pour des gens qui... n'était pas forcément familiarisé avec ce qui était raconté dans le hip-hop. Après, il considère donc dans le monde académique que, enfin oui, la question du danger, en fait, de son point de vue, il parle d'un certain type de hip-hop studies peut-être, mais que de son point de vue, le hip-hop se doit en fait d'être dangereux et de bousculer justement les codes du monde académique tel qu'il s'est fait, et notamment en y apportant la question de l'engagement politique. Et voilà.
You know, just to follow up a bit, my colleague Mark Anthony Neal at one point, I don't know if he still does, but he represented himself, you know, publicly as he called himself, I'm a thug nigga intellectual, right? But he emphasized all of those things, right? Like he's thug in a certain way, which is to say he's bringing gangster academic work, right? That you know, he's not going to back down. He's going to be confrontational. He's going to enter into the battle from an intellectual perspective. His black identity, you know, has a certain kind of political potency by his very presence in certain rooms, in certain meetings. But he's not going to reduce it to that because he's going to bring the intellectual part. And that's my emphasis on the rigor.
Alors, il précise aussi que son collègue, Mark Anthony Neal, à une époque, se définissait comme un thug nigger researcher, c'est ça? Comme un thug nigger intellectual, ce qui signifie en fait qu'il voulait... apporté sur le devant de la scène le côté, ben voilà, le côté gangsta qu'il pouvait y avoir par rapport au hip-hop, et que, enfin voilà, que c'était vraiment l'idée de montrer aussi les débats académiques sous l'angle de un peu de la battle, et voilà, d'apporter quelque chose du hip-hop en termes de contribution académique.
Hi, my name is Sidi Say, and thank you, and thanks Severin and Karim for the whole initiative. I just wanted to know what is the state of academic program in the United States. I got in mind the Ninth Wonder courses and the Cornell University Archive Initiative. Thanks.
So what's the question? Could you hear me? What is the state of the research in the U.S. Ninth Wonder Archive?
Oh, okay. Sorry. Yeah, I had a hard time processing. Sorry. Right now there is a lot of probably more than there's ever been fluidity between cultural creators, hip hop artists of all the elements, and the university. And this is, I think, has been essential to the change of the hip hop studies right now. So yeah, Ninth Wonder entering into Harvard, and when I came into Harvard as a Nas fellow. My fellow, the two of us came in. He's an MC, and he's a radicalized MC from Toronto, actually. I think this has changed the field a lot, that these folks with street experience, with artistic experience, are coming in and encountering, new ways of thinking about their artistry and thinking about their politics. And as I've said all along, reading, writing, researching hip-hop is hip-hop. So these guys who have, on the ground, on the mic, on the spray can, on the floor, spinning experience, bring that into the classroom, bring that into their scholarly work. They bring it into their lectures and their presentations. And I think it makes it more... I think it brings maybe narrows the distances in some ways between what I was calling the ivory tower and the hood.
Alors, juste pour donner des données de contexte, en effet, il y a donc le DJ Ninth Wonder qui a été il y a quelque temps reconnu par l'université d'Harvard comme qui a eu un diplôme de la part de l'université d'Harvard et qui donc maintenant s'occupe de Hip Hop Archive, donc d'archives hip hop qui sont entreposées à l'université d'Harvard. Et Murray dit en effet que ça a changé des choses probablement dans la manière de faire des hip hop studies, parce qu'on a des personnes donc, qui sont issues du monde du hip hop, qui sont des artistes notamment, qui arrivent et qui se mettent à faire des conférences sur le hip-hop et qui, du coup, ils apportent leur savoir qu'ils ont en tant que savoir artistique dans les manières de faire universitaire, et que probablement ça fait qu'il y a moins de distance entre ce qu'il appelait tout à l'heure la tour d'ivoire du monde universitaire et le monde du hip-hop.
But maybe just to add to that too is got to look at these things, if not outright historically, at least in the temporal or situational context, and that we're having a moment where the door is open and gatekeepers are allowing hip hop artists and allowing hip hop scholars to do their thing, right? But there are people who kind of control those gates. Who opens and says, we'll accommodate this, we'll fund it, we'll support it. And my experience, is that those doors can be closed just as quickly, just as easily. And so I'm glad, we try and get in there and get our foot in the door so it won't shut. But, funding could be taken away. The institutional winds can change, and suddenly they say, this isn't really what we want or where we want to prioritize, or we, one or two people do something that is perceived as being wrong or illegitimate or inappropriate, and hip-hop is out the door. We've seen that before in other contexts, I think. This is why I think I'll emphasize that rigor that we're in. We're in for now. We got to do the best damn work because there are people who would like to see us out.
Alors, il dit que on est à un moment intéressant parce que les portes sont ouvertes justement aux États-Unis pour le hip-hop, avec le fait que des universités, des artistes du hip-hop peuvent rentrer à l'université, qu'on peut faire des recherches sur le hip-hop à l'université, et que voilà, ça apporte des choses, et qu'il faut faire attention néanmoins parce que les portes peuvent se refermer aussi facilement. Et donc, justement, on est à un moment intéressant qu'il faut en profiter, qu'il faut essayer de faire la meilleure recherche possible. Et du coup, je pense que c'est une bonne phrase de conclusion. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à reposer des questions à Murray à la pause café qui commence. Et on recommence d'ici un quart d'heure à 11h30 avec la première session sur les scènes locales.
Thank you.